Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue parmi nous pour cette conversation en compagnie de Yannick Hennel. Bonsoir à vous, mon cher Yannick.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Bienvenue parmi nous donc pour cette conversation. Comme vous le savez sans doute, Yannick Hennel est cette année l'auteur associé à cette nouvelle édition des Jardins d'hiver. À ce titre, Yannick, vous allez participer à plusieurs temps de rencontres. D'abord, cette conversation que nous allons avoir ensemble ce soir, qui aura valeur presque d'introduction, pourrait-on dire, à votre parcours et à votre œuvre. Et puis, il y aura deux autres rencontres pendant le week-end. Demain, une rencontre en compagnie d'une écrivaine, d'une poétesse qui s'appelle Laura Vasquez, que je vous invite à découvrir parce que ça vaut véritablement le détour. Yannick aura un entretien, un dialogue avec elle demain après-midi. Et puis un autre temps de rencontre dimanche en compagnie de la réalisatrice Alice Diop, là aussi pour parler à la fois de films, de cinéma, de littérature, de poétique et de politique, puisque les deux sont souvent chez vous intimement liés. Je le disais, une rencontre qui va peut-être avoir valeur d'introduction. On ne va pas pouvoir être exhaustif sur votre parcours, mon cher Yannick, mais on va essayer de s'arrêter sur quelques livres, quelques motifs de votre œuvre, quelques obsessions peut-être, mais vous nous le direz si vous acceptez ce terme-là. En tout cas, on va s'arrêter sur un certain nombre de points comme ça. Je vais vous présenter très rapidement pour qu'on voit un petit peu l'ensemble de votre œuvre, et puis on va rentrer ensuite dans le vif du sujet. Vous publiez donc des livres depuis le milieu des années 90, depuis la parution d'un roman qui s'appelle Les Petits Soldats. On y reviendra peut-être pendant cette conversation. Vous avez publié ensuite de nombreux romans, et des romans dans lesquels on trouve précisément un personnage qu'on pourrait appeler un personnage récurrent. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'un alter ego, d'un double, on en reparlera, de ce personnage de Jean Deschelle, que l'on retrouve notamment dans Cercle, qui est un livre que vous aviez fait paraître en 2007, et que l'on retrouve ensuite dans Les Renards pâles, dans Tiens ferme ta couronne. Il fait une brève apparition, presque comme un second rôle, dans un livre qui est votre roman le plus récent, qui s'appelle Le trésorier payeur, un livre dans lequel vous mettez en scène, on y reviendra aussi, ce banquier anarchiste et philosophe qui s'appelle Georges Bataille. Donc là, on a à peu près le programme de Yannick Hennel. Voilà. Et puis, vous publiez aussi des livres autour de la peinture. Vous avez notamment publié un texte autour du Caravage, un texte autour d'un peintre roumain contemporain qui s'appelle Adrian Guenillé. Et puis, ce livre très récent que vous venez de faire paraître aux éditions Stock, qui s'appelle Bleu Bacon, autour de l'œuvre de Francis Bacon, Une nuit passée avec l'étoile de Bacon, on en reparlera. Donc des livres comme ça autour de la peinture, et puis d'autres livres qui vont à des endroits différents, et notamment à la violence du siècle, ou à la violence du temps présent. Jan Karski, autour de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Et puis plus récemment, des livres qui tournaient autour du procès de Charlie Hebdo, auquel vous avez assisté. Un livre qui s'appelle Janvier 2015, Le procès, et puis un autre livre qui s'intitule Notre solitude, où vous parlez de cette traversée des ténèbres. Peut-être aura-t-on l'occasion d'en dire un mot. Et puis peut-être je vais commencer par un livre qui est un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le sens du calme, qui est un livre dans la belle collection de Colette Felous, 13 et portraits, dans lequel on demande aux écrivains de faire une sorte d'autoportrait. Alors vous avez choisi un autoportrait façon puzzle, comme on dit, des fragments, des moments de vie, comme ça. Et j'aurais aimé peut-être commencer par le commencement, d'une certaine manière. Dans ce livre, vous évoquez le premier moment, le premier instant où peut-être l'écrivain est né, ce moment où vous trouvez Jésus dans une poubelle. Peut-être pouvez-vous nous dire un petit mot de cela. C'est une pirouette, mais il me semble que c'est intéressant de comprendre aussi la naissance d'un écrivain, ou en tout cas le moment où vous datez, vous, peut-être, ce moment-là.
Mais d'abord, grand merci. Des milliers de choses à dire. Bon, je n'ai pas vraiment trouvé Jésus, encore moins dans une poubelle, mais c'est la première phrase de ce livre. On m'avait demandé d'écrire un autoportrait, et c'était un crucifix qui se trouvait dans une poubelle. J'avais 10 ans et ça me semblait immense, enfin. Et c'était, je ne sais pas, ça avait été vidé d'un cimetière. Il était un peu cassé. Et ça m'avait fait forte impression. Mais ce jour-là, parce que si je commence à raconter ça, je pense que j'en ai pour des heures, ce jour-là, effectivement, qui était un samedi, j'ai une prédilection pour les samedis depuis, il m'est arrivé beaucoup de choses. Et j'ai choisi, parce que la mémoire, comme vous le savez, est défaillante, très trompeuse, mais elle est charmeuse aussi, j'ai choisi de penser que c'est ce jour-là que me sont arrivées les choses les plus conséquentes dans ma vie. Alors, il y avait ce Jésus dans une poubelle. Voilà, il y avait c'est quelque chose d'un peu non seulement incongru, mais qui disait tout de la violence du monde. Enfin, sur là où on met le grand cœur, quoi. Mais surtout ce jour-là, je vais essayer d'être rapide. Je me souviens que j'avais 10 ans, donc j'étais en, je sais pas quoi, CM2, CM1, CM, non, peut-être CM1. On nous a passé Nuit et brouillard, le film d'Alain René. Et bon, nous étions vraiment petits. Il se trouvait que ce matin-là, notre institutrice était absente. Ça se passait dans l'Aisne, vous voyez, 02, près de Laon. Et elle avait été remplacée ce jour-là par une jeune femme, une jeune institutrice débutante, qui avait ceci de particulier, qu'elle était absolument d'une beauté inouïe. Je crois que c'était la première fois que j'avais devant moi... Mais j'étais au premier rang, j'étais un élève très sage et modèle. Mais là, je me suis dit, c'est pas mal d'être au premier rang parce que j'ai pu profiter de cette femme. Je crois que j'étais bouche bée comme un imbécile toute la matinée. Et donc, ça a été une épiphanie érotique, amoureuse. Mon premier chagrin d'amour aussi, puisqu'elle ne m'a pas considéré tellement. Mais quand même, des années plus tard, je l'ai raconté. Et ce jour-là, cette même jeune femme absolue, dont je me souviens encore du velours de sa robe, des transparences, peut-être un peu fantasmées ou rêvées, mais elle nous a passé ce film, parce qu'à l'époque, on diffusait ça à l'école. Et alors, il est possible que ça a été un peu prématuré, parce que moi, j'en suis sorti totalement traumatisé. Et dans Nuit et brouillard, comme vous le savez... il s'agit de l'extermination des Juifs d'Europe, même si le mot juif n'est pas prononcé, pour toutes sortes de raisons politiques, il faudrait faire un débat là-dessus. On est en 55, c'est fait par Alain René, le texte de Jean Cayrol, très grand écrivain sous-estimé à mon avis. Et elle savait sans doute pas trop quoi faire de nous, cette jolie dame. Et elle nous a demandé, après nous avoir asséné ce film qui nous a stupéfait, quoi. Elle nous a demandé de réagir, de dire ce qu'on en pensait à 10 ans. Bon, ok. Moi, j'ai été prof, je n'ai jamais osé faire une chose pareille avec des enfants. Et ce jour-là, et c'est à ça que je voulais en venir, c'est la seule fois de ma vie, encore une fois, bon élève, enfin, tout bien, quoi, sous tout rapport, j'ai rendu feuille blanche. Il se trouve que... c'était pas par volonté de faire le malin, quoi. Mais j'avais totalement honte de rendre feuille blanche parce que j'ai été bloqué, quoi. Il n'y avait pas de mots. Et de fait, bien des années plus tard, en y repensant, notamment en l'écrivant, je me suis dit que c'était quand même de ça dont il s'agissait. Enfin, la suspension momentanée, non pas de la compréhension, mais des mots pour le dire. Parce que précisément, s'il y a bien... Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas dire, mais s'il y avait... Je dis une chose, faute de mieux, s'il y a bien un événement qui échappe aux mots, à tel point que Claude Lanzmann a dû en inventer un, si je puis dire, enfin, prendre de l'hébreu le mot Shoah, qui veut dire anéantissement, s'il y a bien un événement qui échappe à son commentaire, voilà, surtout à 10 ans, c'est bien celui-là. Et donc, en rendant feuille blanche, là, je me justifie un peu, comme ça, des années après, peut-être que l'institutrice est parmi vous, on ne sait jamais. C'était pas si mal répondu. C'était de ça dont il s'agissait. Un blanc total dans l'histoire et dans la possibilité de dire. Voilà. Bon, j'ai raconté ça. Et puis, évidemment, ce jour-là, donc, l'horreur de ce film, la prise de conscience, le premier rapport avec le langage, parce que c'est quand on est empêché que ça commence l'écriture véritablement, c'est quand on commence à réfléchir sur les impossibilités du langage, qu'en fait on est déjà dans le langage, je veux dire dans l'écriture, dans la littérature. Et la troisième chose, l'expérience de cette merveilleuse robe et de ce visage fou, quoi, elle ressemblait, oh j'ai envie d'en parler un peu.
On lui donnera la parole, bien sûr, en fin de rencontre.
Si elle est là. Elle ressemblait, vous voyez la dame à la licorne, enfin... Bon, elle n'était pas blonde, enfin, je ne sais plus. Peut-être que oui, elle était blonde et brune. Bon, ça n'existe pas, évidemment. Mais elle était tout, quoi. Et un visage très... Oh, je m'enlise dans la... Un visage très doux, très gracieux, voilà, elle était...
Vous écrivez d'ailleurs dans ce premier texte qu'on écrit des livres pour faire parler ces instants de foudre, ces moments de révélation, ces moments, vous avez parlé d'épiphanie, il y a quelque chose de cet ordre. On a l'impression que c'est presque un programme littéraire.
Mais oui, parce que c'est comme ça, enfin je ne sais pas vous, mais c'est comme ça que je vis ma vie. Il y a des moments pas terribles, hein, enfin, des moments où je ne suis pas très en forme, mais peu importe, ce n'est pas la question de l'emploi du temps, c'est la question des moments d'exception. Voilà. Et je pense que ce qu'il y a de beau, enfin, c'est ma démarche, c'est ma politique personnelle, c'est d'aller vers l'intensification de ce qu'on aime. Et d'arriver finalement, bon ça c'est une utopie, à ne plus faire que vivre ce qu'on aime. Ça c'est l'idéal évidemment. Et donc quand on m'avait proposé à l'époque d'écrire une espèce d'autoportrait, j'avais 40 ans, je me disais je vais pas raconter ma vie, enfin, je me disais fait que commencer mince. Je me suis aperçu que c'était des instants qui me plaisait. C'était pas de longues séquences, c'était pas des séjours, c'était pas des périodes, c'était pas des époques, mais des instants parfois de quelques minutes. Alors il y avait ce samedi là, ce fameux samedi inoubliable, mais il y avait parfois des arrachements à soi. Il y avait des coups de foudre devant des œuvres qui durent une minute, mais qui semblent durer une vie entière. Et voilà, bon, le rapport qu'on a avec le temps est tissé de vitesse et de lenteur. Évidemment, c'est une banalité que de le dire, mais finalement, j'aime penser à ma vie et à celle des gens que j'aime comme à une mosaïque où tous les instants qu'on a aimé vivre, les instants qu'on a vraiment vécu, se rejouent en même temps, simultanément. Vous voyez, c'est comme si on avait une mémoire physique qui transportait dans nos bras, dans nos jambes, dans notre cœur, dans notre gorge, dans notre sexe, tout ce qu'on a vécu de beau et qu'on peut rassembler en écrivant. C'est ça la vertu pour moi de la littérature, c'est cette mémoire qui d'un coup vient nous nourrir, comme si on avait un stock de sensations. Alors je ne sais pas, j'ai hâte de rencontrer Laura Vasquez demain parce que je crois que on pourrait appeler ça la poésie, je ne sais pas si elle sera d'accord, enfin d'être à la pointe de la sensation et de savoir la dire.
Encore une petite chose sur ce livre, et puis on va rentrer ensuite notamment dans Cercle. Ce livre-là, Le sens du calme, il déploie aussi une sorte de géographie personnelle, de géographie intime, d'une certaine façon. Il y a notamment la chambre africaine, l'enfance en Afrique, à Niamey, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a ce pensionnat militaire qui sera à l'origine, d'une certaine manière, de Les Petits Soldats. Il y a cette rivière alsacienne, l'Échelle, qui donnera son nom à votre personnage récurrent. Peut-être nous dire un petit mot de cela rapidement pour situer la géographie intime de lieux qui sont des lieux que l'on retrouve aussi au fil de vos œuvres et au fil de vos livres.
Bah, c'est ma mythologie personnelle, enfin, c'est mon rapport aux choses aimées. Alors, ce sont des lieux, effectivement, je n'ose pas encore écrire, vous voyez, à 56 ans, un livre sur les années que j'ai vécues en Afrique, parce que mon père était coopérant, il était militaire. Et parce que c'est encore trop pour moi. Enfin, c'est un excès foisonnant de sensations, de bonheur. Le vert paradis des amours enfantines, comme dit Baudelaire. Et j'ai peur de ne pas être à la hauteur de... C'est si souverain et si fragile, ces années que j'ai passées là-bas, au Sénégal, deux ans au Niger, à Djibouti, puis des péripéties comme ça au Mali, dans le désert. C'est si précieux, c'est une matière si... infinie, enfin vertigineuse, que j'ai peur de ne pas bien le raconter. Enfin. Et donc j'attends, un jour j'espère y arriver. Et de temps en temps, je fais des incursions africaines, comme ça, où il y a des réminiscences qui viennent dans certains de mes livres, même dans le dernier, dans Bleu Bacon. Et il se trouve qu'effectivement, cette chambre, en 79, pendant un an, en gros, cette petite chambre avec un ventilateur, on mourait de chaud au Niger avec la moustiquaire et puis des hantises d'enfants, un placard bien trop grand et qui, à mes yeux, contenait des monstres, vous voyez. Et puis les premières insomnies, enfin quelque chose de fiévreux, de tendu. C'est Francis Bacon, le peintre là, que j'aime particulièrement, qui dit « Je suis toujours sur le qui-vive, je n'ai jamais été non relaxé ». Je pourrais un peu dire ça aussi, mais c'est pas une nervosité spéciale, c'est quelque chose qui me vient de l'enfance, de ces années-là où je guette, je ne sais pas comment dire ça, à la fois la menace... Mais je guette aussi la merveille. Je veux pas rater le surgissement de la chose la plus belle qui est là à chaque instant et qui doit se déplier. Et je veux me rendre disponible. Quand j'étais petit, je voulais pas dormir. C'est très classique. Hein. Tous ceux qui ont des enfants savent que c'est franchement un calvaire. Mais c'était ça, en fait. Je me sentais comme un chasseur africain. Mais un chasseur doux, vous voyez. Il y a une phrase, je dérive un peu, il y a une phrase du livre des pharaons que j'aime beaucoup qui dit « L'homme doux pénètre les obstacles ». Ça pourrait être sagesse africaine aussi. Et je pense que par le biais de la douceur, qui pour moi est liée intimement à l'idée que je me fais de la littérature, par le biais de la douceur, on se rend disponible aux choses, on les entend de l'intérieur. Et bon, voilà, pendant cette année un peu bizarre, où on avait, en Afrique, on a cours que le matin, il fait beaucoup trop chaud, l'après-midi, on reste dans notre chambre. Ma sœur était dans un coin, dans sa chambre, et moi j'étais livré à moi-même, et je me suis mis à écrire des conneries, enfin. Et puis je faisais des découpages, et je recopiais des encyclopédies, j'étais féru de toutes les religions animistes, enfin les religions africaines, et j'avais un panthéon qui venait des Dogons, enfin. Et voilà, je tapissais ma chambre avec des sans doute des personnages très inquiétants et qui d'ailleurs me fichaient les jetons. Enfin, la nuit, quand je les voyais, des statuettes de sorciers et puis un poster de David Bowie de l'époque Ziggy Stardust. Vous savez, quand il ressemble à un renard avec sa crinière rousse et puis il a un éclair bleu et rose. J'ai une passion pour Ziggy Stardust. Je le prenais vraiment pour un dieu, en fait. Ben voilà, il était déjà là. Et la seule fois dans ma vie où je peux dire, c'est une inquiétude que j'ai, j'aimerais avoir un esprit plus religieux, la seule fois où je suis sûr d'avoir cru en un dieu, c'était en Ziggy Stardust à 12 ans.